situation sécuritaire au Nord Kivu. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, affirme que des mouvements de l'armée rwandaise et de la rébellion du M23 sont en cours dans cette province, en vue, selon lui, d'attaquer la ville de Goma. C'est à travers une vidéo qui a été consultée mardi 30 mai sur Internet par Radio Okapi que le communiqué de l'armée congolaise a été lu par son porte-parole. Selon le général Sylvain Ekenge, on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leur ancienne position à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé. Le porte-parole de l'armée congolaise signale que cette zone se trouve dans les secteurs sous contrôle de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est et ainsi en sigle. Quelle lecture faire de la déclaration des FARDC? Nous en parlons ce soir avec le professeur Jacques Joly. Il est professeur de droit constitutionnel, député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Professeur Jacques Joly, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, écoutez.
Placide Nzilamba, membre de la société civile du Nord Kivu. Placide Nzilamba, bonsoir.
Bonsoir Madame.
Et Onespor Sematumba, analyste en charge des Grands Lacs International Crisis Group. Onespor Sematumba, bonsoir.
Bonsoir Madame.
Vous êtes déjà très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Abamungu Balibouza de Bukavu Sud Kivu. Quand l'ennemi se réorganise, on se réorganise également. Depuis le début de cette guerre, la RDC n'a jamais cessé de se plaindre comme si l'ennemi était le seul à appliquer la stratégie militaire pour gagner la guerre. Le temps n'étant plus aux plaintes, encadrant nos forces armées, plaçant-les dans les bonnes conditions et tout ira bien. À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bien, bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
À travers une vidéo qui a été consultée mardi 30 mai sur Internet par Radio Okapi, les FARDC accusent le Rwanda et la rébellion du M23 de préparer une attaque contre la ville de Goma au Nord Kivu. Le communiqué de l'armée congolaise, lu par son porte-parole, le général-major Sylvain Ekenge, dénonce le comportement « va-t-en-guerre » affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. On écoute le porte-parole de l'armée dans cet extrait que nous propose la rédaction.
L'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda.
C'était là le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, professeur Jacques Joly. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel, vous êtes député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez la déclaration des FARDC? Une déclaration qui intervient au moment où on sait que officiellement le M23 est dans le processus des retraits des zones occupées.
Merci beaucoup madame. D'abord remercier la Radio Capi pour l'opportunité qu'elle nous offre pour échanger avec mon frère, celui qui vient du Kivu et lui d'International Crisis Group, que je salue en passant. C'est vrai que les communiqués de l'état-major général de forces armées de la République du Rwanda du Congo dénoncent, n'est-ce pas, cette situation de réactivation ou de réoccupation des zones prétendument cédées où l'M23 devrait se retirer, parce que la présence des troupes de l'ASC et de l'East African Community, c'était pour permettre aux éléments de M23 de faire le mouvement pour leur casernement au niveau de Tianzhou et de Sabignon. Deuxièmement, à ces déplacements devait suivre le désarmement dans le cadre du processus PDN-RCC. Alors, curieusement, au lieu de voir ces mouvements aller vers ces processus, n'est-ce pas, de sa démobilisation, de désarmement, eh bien, on assiste à leur retour en force, appuyé en cela par les éléments de Rwanda Defense Force, donc de l'armée rwandaise. Cette situation n'est pas simplement dénoncée par le FARDC, mais par la communauté internationale, notamment par les États-Unis et d'autres puissances. Donc cette duplicité rwandaise a déstabilisé la République, mais surtout ce comportement du M23 qui ne nous étonne pas, parce que ce sont des hordes de supplétifs terroristes au service du Rwanda, mais surtout l'apathie des East African Community qui nous préoccupe, parce que on ne peut pas accepter que les troupes qui ont pris la place lorsque les éléments de M23 se sont retirés puissent revoir ces forces revenir jusqu'à Kibumba, jusqu'à Rugari. Et nous savons
qu'ils se préparent. Et installer même leur quartier général avancé.
Avancer au vu de ces forces internationales qui sont venues soi-disant nous aider à résoudre cette crise. Et ça, c'est en violation des accords, n'est-ce pas, de Nairobi et de Luanda. Donc voilà le sens qu'il faut donner à ces communiqués de FARDC, qui ne veulent nullement dire que les FARDC sont l'arme au pied. Non, nous respectons les engagements que nous avons pris au niveau international, mais si en face de chez nous, nous convoyons que ce qui devait être désintégré, désarmé, reviennent pour pratiquement encercler Goma, et nous savons qu'ils veulent attaquer par Kibumba, nous savons qu'ils veulent passer par le parc, nous savons qu'ils veulent continuer à contourner, mais ils visent toujours Saké, ben, je crois que mon frère Placide est mieux placé pour nous donner la situation en tant que responsable de la société civile, mais ce que nous déplorons, c'est la mauvaise foi de, n'est-ce pas, du Rwanda, qui s'affirme de plus en plus comme agresseur, mais surtout le comportement de troupes de East African Community. Et ce qui, excusez-moi madame, nous dit qu'il faut absolument résoudre cette question, parce que comme ils savent que les troupes de la SADC sont là, leur objectif c'est de profiter de ces temps de flottement pour se renforcer et à réaliser leur plan macabre d'attaquer Goma, qui constitue pour eux leur objectif final, et pourquoi pas des menaces que nous attendons du côté du Sud Kivu.
Alors, après cette dénonciation de l'armée, qui doit intervenir, professeur, pour défendre la RDC? Est-ce qu'on va se limiter juste à faire des déclarations? C'est pas la première déclaration, c'est pas la première fois que les autorités congolaises ou l'armée congolaise dénoncent le comportement du Rwanda ou du M23. Est-ce qu'on va se limiter?
Non, madame. Non, madame. Je crois que la guerre se limite pas à la communication, mais la communication fait partie de la guerre. Et ce que je peux vous dire, c'est que la responsabilité première de la protection du Congo et des Congolais, mais cette responsabilité est du gouvernement congolais à travers nos éléments de forces armées et autres forces de défense. Et ce n'est peut-être pas le lieu de les dire, depuis les derniers changements, tant au niveau du commandement de l'armée que du gouvernement, des efforts énormes sont faits pour que nous puissions assurer la responsabilité de la défense de notre population. Il faut aussi pas oublier que ça fait 20 ans que cette situation perdure, et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est au niveau de narratif, où on a désigné l'ennemi qui est le Rwanda, et ce travail qui a été fait par le président de la République et l'ensemble du gouvernement est aujourd'hui reconnu, parce que je vous ai dit que le gouvernement américain a demandé au M23 et au Rwanda d'arrêter leurs activités armées en République démocratique du Congo pour permettre que la paix revienne dans cette partie. Aujourd'hui, nous ne savons pas organiser des élections paisiblement à cause de cette situation. Les enfants n'étudient plus. Le camp des déplacés, nous avons un nombre très élevé de déplacés qui atteint dans cette partie plus de 5 millions de personnes. Les enfants vivent à la belle étoile. Il y a même des cas de violence dans ces camps de déplacés. Il est temps que le Rwanda et l'M23 nous laissent en paix. Et je peux vous assurer qu'au niveau de l'Assemblée, en contact avec le gouvernement, nous sommes en train de suivre cette montée en puissance impérative des forces armées pour que nous puissions assurer notre sécurité et la sécurité de notre population.
Alors, un cessez-le-feu est observé dans la zone depuis mi-mars. Placide Nzilamba va me corriger si je suis dans l'erreur, puisqu'il est de la société civile, il maîtrise mieux le coin que moi. Alors, je disais, un cessez-le-feu est observé dans la zone depuis mi-mars. Professeur, est-ce que vous ne pensez pas que cela a permis au M23 plutôt de capitaliser ces instants pour ces réorganiser?
Mais c'est justement ce que nous déplorons. C'est-à-dire, c'est cesser le feu, c'était pour permettre au M23 d'entamer le processus de sa désactivation et de sa désintégration avec le concours, n'est-ce pas, de troupes de l'East African Community. Et c'est là où le communiqué insiste sur la passivité, et même certains, j'espère que Placide nous dira, la complicité, la sympathie qu'on trouve, n'est-ce pas, dans l'East African Community. Donc nous avons fait confiance, malheureusement, cette confiance, il faut la dire, elle a été trahie, et c'est ainsi que, au niveau de ces mois de juin, il y a ce processus qui doit amener les troupes de la SADC à venir appuyer les FARDC pour que nous puissions assurer, n'est-ce pas, ces rôles-là, parce que c'est de l'IAC, la population l'a dit depuis longtemps, n'était en train de sympathiser avec des rebelles, ce qui est une chose qu'on ne peut pas accepter.
Alors, en attendant l'arrivée des troupes de la SADC, le M23 est en train de se réorganiser. Les FARDC, ils font quoi entre-temps, professeur? Ils observent en attendant l'arrivée de la force de la SADC?
Madame, les FARDC sont des troupes loyalistes de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a signé un certain nombre d'engagements au niveau de l'East African Community, au niveau du médiateur de la CIGL l'Angola, dans le cadre de l'accord de Luanda. Nous nous sommes engagés à adopter une attitude de responsabilité, de respect du cessez-le-feu pour permettre, n'est-ce pas, aux troupes de l'East African Community d'accompagner le processus des retraits de M23 pour leur cantonnement, je vous ai dit, sur le mot Sabinho et vers Tchanzu. Mais là, nous observons que ces troupes reviennent, ces troupes sont réactivées, ils prennent de positions d'offensive, et c'est ça le sens de ces communiqués. Mais ça ne veut pas dire que les FARDC sont le bras croisé.
Placide Nzilamba, vous êtes membre de la société civile du Nord Kivu, vous venez de Goma, vous maîtrisez peut-être la situation mieux que nous, puisque vous vivez avec cette population qui fuit les localités où les M23 font leurs activités. Alors dites-nous d'abord, c'est quoi la situation sur terrain aujourd'hui?
Merci madame pour la question. Je dois d'abord remercier la radio Capi pour l'invitation, saluer aussi le professeur Jacqueline Joly, notre co-débatteur Onesphore Sematum du Crisis Group. Dans le sens de la question qui m'a été posée, c'est dire que la situation reste toujours tendue sur le terrain. D'après les alertes reçues depuis le week-end dernier jusqu'à ce jour, la population et même les acteurs de la société civile n'ont pas cessé de lancer des alertes sur une réorganisation, un redéploiement des troupes du M23, notamment, comme l'a été dit dans le communiqué des FARDC, en installant une position avancée ou une base à Rugari. Et même ces hauts cadres de commandement se sont émoustillés ou se sont donné le loisir de marcher sur Kibumba, aller même jusque dans les bureaux du territoire. Et maintenant là, depuis hier soir, nous sommes en train d'assister à des mouvements de traversée dans le parc en allant vers Massissi. Donc le M23 est toujours dans ses activités quotidiennes de poser d'abord la terreur, parce que cette guerre se mène sur plusieurs plans, et le plan que le M23 a si exploité, c'est le plan communicationnel, avec beaucoup de comptes Facebook, beaucoup de comptes WhatsApp, plus de 2000 d'ailleurs, pour véhiculer des messages de terreur, véhiculer des messages pour essayer de démoraliser même les troupes des FARDC et même la population. Donc les camps de déplacés restent intacts, comme vous l'avez vu. Et le Premier ministre y a séjourné aussi pour évaluer la situation. Il a trouvé la situation toujours pénible pour nos populations qui sont dans des camps déplacés. Et même des cas de kidnapping dans des zones occupées par les M23 sont toujours rapportés au quotidien. Et que donc, à notre niveau, c'est dire que les M23 exploitent les failles qui se trouvent dans le plan opérationnel de la force de l'EAC. C'est ça, ce qu'il faut dire avec la situation. Comprenez que quand vous voyez comment la force de l'EAC s'est déployée sur terrain, vous trouvez que vraiment il y a des failles que les M23 exploitent. Parce que dans un plan qui devait suivre ce qu'on appelle les retraits progressifs, la force de l'EAC a opté pour la cohabitation et la cogestion avec les M23. Et c'est devenu compliqué pour résoudre la situation. Si vous arrivez à Rumangabo, les M23 et la force de l'EAC cohabitent, soit ensemble. Vous arrivez à Rutshuru Centre, vous arrivez à Kiwanja, vous arrivez à Mabenga, ils sont toujours ensemble.
Mais le problème, est-ce que ce n'est pas le mandat même de cette force de l'EAC qui pose problème? Parce qu'il y a une certaine confusion par rapport au mandat de la force.
Effectivement, vous avez touché un élément crucial que nous avons toujours évoqué dans différentes réunions avec même le commandement de la force. Parce que nous, on leur avait posé la question, quel est votre mandat exact? Il a été difficile de nous donner la réponse. Et nous, on a soumis même cette question au gouverneur des provinces dans une réunion, d'ensemble pour lui dire, en tout cas, nous, on ne comprend pas même les mandats de cette force. Comment les communiqués d'Angola, et même les tâtonnements qu'il y a, il faut le dire, madame, dans la rédaction de communiqués de l'EAC, que ce soit au niveau des ministres de la Défense, que ce soit au niveau des chefs d'État, vous trouvez un communiqué qui vous dit les M23 vont se retirer pour aller à Sabinho. Mais Sabinho, c'est où? Et quand vous voyez la configuration de la zone, on a donné toujours au M23 la latitude d'avoir une zone qu'il contrôle. Et que donc c'était des erreurs. Sabinho, c'est où? Il fallait voir où est Sabinho et où est-ce que se limitent les manœuvres du M23. Donc c'était des erreurs. Après, ils ont changé. J'ai entendu qu'ils étaient en train de tâtonner pour dire ils seront cantonnés à Kiwanja, ou après Kiwanja, ils seront pris par des avions pour aller à Goma, et Goma pour aller au Maniema. Mais finalement, quelle est la réponse exacte? Je crois que les M23 profitent de tout ce tâtonnement-là, devant la situation, et l'erreur commise par nos gouvernants, ils se fient seulement aux sources de leurs agents qui sont sur le terrain, sans aussi contre-vérifier les informations qui leur sont fournies. C'est ça le plus grand problème avec nos gouvernants. Mais nous, on ne pouvait pas accepter à notre niveau qu'on arrive à des tâtonnements pareils. Et aujourd'hui, le M23 est comme le poisson dans l'eau, et il se comporte comme il veut.
Parce que tout simplement, il a compris.
Il ne trouve pas d'obstacle.
Il n'y a pas d'obstacle, madame. C'est une cohabitation et peut-être on parlerait même d'une congestion. Parce qu'il commence même à installer des autorités administratives et commencer à même convoquer des réunions, faire payer des taxes et consorts. Donc, à notre niveau, c'est dire donc, l'État est en train de mourir petit à petit et nous arriverons à un certain moment, la population risquera de prendre ça comme une habitude, comme un mode de vie, et l'État sera en train de disparaître.
Alors, il y a Francis qui nous écrit depuis Boujimaï. Lui, il pense que c'est en raison de la faiblesse de la réponse militaire congolaise que les rebelles du M23 envisagent maintenant d'aller plus loin.
Bon, effectivement, parce qu'il fallait rentrer dans les faits historiques, comme le professeur le disait ici. En 2013, après avoir défait militairement les M23, nos autorités étatiques et même les forces armées sont parties s'endormir. Tandis que les autres ont fui pour aller se préparer et revenir en force. Vous avez vu, après la défaite militaire du M23, c'est ici chez nous, c'était la guerre aux élections, c'était des tueries des officiers, on assistait à cascade à des morts des officiers. Bon, alors, on ne s'est pas préparé et la guerre nous a rencontrés dans notre désordre quotidien. Et maintenant là, nous sommes surpris comme des gens qui se réveillent de l'anesthésie et il faut amener des réponses vaille que vaille. Moi, je pense que même pour venir à bout du M23 en 2013, il nous a fallu une année de préparation. Alors, chaque jour, la guerre nous trouve dans l'impréparation et c'est pourquoi nos ennemis nous ont déjà étudié, ils ont déjà étudié la manière dont nous gérons
ce secteur. Et qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du porte-parole de l'armée?
Effectivement, c'est une déclaration pour nous qui trahit la République, mais qui trahit l'armée. Parce que cette manière de communiquer renforce même la peur au sein de notre population. Quand c'est l'armée qui commence à dénoncer, nous, on en était habitués, ce travail de dénoncer appartient à la société civile, à d'autres organisations, des droits humains, consorts. Mais quand ce soit l'armée qui commence à dénoncer, que non, mais on n'a pas été habitué à de tels genres de communication au sein d'une armée. Je crois que même le président de la République a cette responsabilité de recadrer cette manière de communiquer pour notre armée. Je crois que l'aspect de communiquer sur les affaires politiques et autres, je crois qu'on devait laisser aux acteurs du gouvernement qui savent, dans leur communication, préserver l'image du pays et non de communication alarmiste de ce genre. Alors, quand un militaire, c'est lui qui dit ça, qu'est-ce qu'un civil va dire? Il dit donc Nous sommes abandonnés. Et donc, c'est une communication qui fait peur, qui renforce même les velléités de l'ennemi qui veut créer la terreur au sein de la population. Donc, aussi, d'autres qui bénéficient de ces désordres profitent de cette communication pour éparpiller le même message au sein de la population. Et vous savez que ce désordre n'est pas là seulement parce que c'est le M23 qui a bénéficié. Même il y a certaines personnes au sein de nos institutions qui en bénéficient et qui ne peuvent pas vouloir que ces désordres finissent aujourd'hui. Et que donc, tous ces paramètres doivent être bien étudiés pour maintenant identifier la solution. Parce qu'on nous a amené d'ailleurs d'aller assez. Sans nous, ça il faut vous le dire, nous avons été surpris. C'est comme une chèvre qui s'amène à l'abattoir. Qui pouvait accepter d'aller dans ça?
Le président de la République avait dit que c'était sur la demande de la population de Goma.
Quelle population? Il y avait une consultation ici au pays. Vous avez entendu la manière dont les députés nationaux ont décrié le débat qui a eu lieu en rapport avec cette question de l'adhésion à l'EAC. Nous, on ne pouvait pas accepter, nous qui vivons en chair et en os, cette souffrance que nous impose les pays voisins. Mais merci. On nous y a amené, bon, ok, on n'a pas le choix, il faut le dire, mais en tout cas, aujourd'hui, si on veut nous dire qu'il y a une solution pour limiter les velléités du M23, nous nous pensons que la solution doit être congolaise. Parce que l'expérience commence à démontrer que la solution ne viendra pas d'ailleurs.
Merci Placide Nzilamba. On est forcé Matumba, vous êtes analyste en charge des Grands Lacs International Crisis Group. Votre lecture après cette déclaration de porte-parole de l'armée sur la réorganisation du mouvement M23.
Bien, merci Madame Kelly de m'accorder la parole et surtout merci de me donner l'opportunité d'être sur la même plateforme que l'honorable professeur Jacques Nzoli, que je respecte beaucoup, et mon collègue et ami Placide Nzilamba de Goma. Tout d'abord, cette déclaration nous prouve que la guerre où la crise perdure. Pour ceux qui l'auraient oublié, c'est le feu-là qui n'en est pas un. Nous sommes dans une situation à l'est de la République démocratique du Congo de ni guerre ni paix. C'est drôle de cesser le feu qui peut être le prélude n'importe quand de la reprise des hostilités. Ça, c'est la première chose que moi je retiens de la communication du général de FARDC. Donc, c'est clair que la guerre du M23 ou la guerre de l'Est se poursuit. Maintenant, dès que s'est posée la question qu'on se pose, justement, c'est ce cessez-le-feu dont on dit que le M23 l'a accepté. Qui en assure le suivi? C'est un cessez-le-feu ou c'est un retrait volontaire? Mais les débatteurs sont en train de dire qu'on ne voit pas le rôle de l'armée ou du contingent de l'Est africain. C'est vrai. Mais est-ce que dans leur mandat, parce qu'on a parlé du mandat, il y a le suivi du retrait de M23? L'autre élément, justement, on a parlé de confusion, je pense que c'est Placide qui vient de sortir le mot, par rapport à tous les conflits. Donc, l'honorable a rappelé que le M23 devait rejoindre les Moussignons et Charles, je pense. Dans le tout premier communiqué, je pense, début 2022. Mais lors de sa communication en avril 2023, le président Félix Tshisekedi a dit qu'il y aurait un précantonnement à Tshitshanga, ça c'est dans le Masisi, ou un cheval entre Masisi et Rutshuru, suivi d'un cantonnement à Kindu. Bon, tout ça crée cette sorte de cafouillage qui donne lieu à toutes sortes de manœuvres. Enfin, je dirais que dans une situation de guerre comme cela, toute période de trêve ou de cessez-le-feu est un moment charnière où les belligérants achètent leurs armes au propre comme au figuré. Donc nous voyons que apparemment, le M23 a profité de cette période de trêve pour se renforcer, pour s'équiper et pour commencer à se déployer selon le communiqué de l'armée nationale. Donc, nous sommes en droit de poser la question, et c'est ce que sous-entend la réaction de Placide Nzilamba. Pendant ce temps-là, sous les FARDC, comment mettent-ils à profit cette période de trêve pour que ce qui est présenté comme une menace ne devienne pas réellement un affront qui se caractérise par l'action sur la chute? Voilà donc mes premières réactions.
Alors, on espère, c'est Matumba, vous avez posé la question de savoir qui assure le suivi du retrait du M23 des zones occupées. On sait quand même que lors du sommet de Luanda, le sommet du 23 novembre, les chefs d'État avaient décidé que si le M23 ne se retire pas des localités, on pourrait autoriser l'usage de la force. On s'est dit que ce sont les chefs d'État qui devaient assurer le suivi du retrait du M23. Malheureusement, cela n'a pas été fait. On n'a pas autorisé l'usage de la force. Le M23 a continué à se réorganiser. Est-ce qu'on peut parler de l'échec de ce sommet de Luanda?
Mais, Madame Kelly, je peux même vous dire qu'il y a déjà eu plusieurs sommets et plusieurs communiqués. Et entre différents sommets et différents communiqués, rien ne se passe. Jusqu'à ce qu'on aille de nouveau répéter la même chose. Retrait immédiat, cessez-le-feu immédiat. Mais il n'y a pas de mécanisme opérationnel pour s'assurer que cela est en train de se passer. Par exemple, qu'est-ce qui est prévu au cas où les M23 refusent de quitter telle ou telle zone? Parce que, à notre connaissance, et jusqu'à présent, le retrait, et je l'ai déjà dit, des zones par les M23 se fait volontairement par les M23, et je mets quiconque à défi de nous dire où ils vont. En fait, quand ils se retirent, ils vont où? C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans les parages, parce qu'il n'y a aucun mécanisme d'identification des zones de retrait, des mécanismes, telle date. Donc c'est seulement après plusieurs jours ou semaines de sommeil, comme disait Zilamba, d'anesthésie, qu'on se réveille et qu'on se rend compte que le M23 est toujours là. C'est aussi clair que cela aussi.
On va ouvrir notre standard à présent pour prendre les auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler pour donner aussi leur point de vue sur le sujet de ce soir. Direction Bukavu dans la province du Sud Kivu pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, professeur Jacques Joly.
Moi, c'est Patrice Mondera Kolimouki depuis Bukavu au Sud Kivu. J'aimerais savoir pourquoi un groupe rebelle bien connu et qualifié de terroriste est-il parvenu à former leurs troupes sur le sol congolais? Où est-ce que nos forces de sécurité étaient pendant tout ce temps, mais aussi les forces régionales de l'EAC? Jusqu'à quand ces rebelles de M23 vont continuer à installer leurs quartiers général sur le sol congolais? Je crois, à mon avis, que le fait d'avoir laissé ces rebelles du M23 sur le sol congolais, malgré leurs exactions, perpétrées jour et nuit, serait à l'origine de leur résurgence. D'où il serait mieux que la RDC utilise la force jusqu'à ce que ces rebelles soient chassés vers leur pays d'origine.
Professeur Jacques Joly.
Je crois que je partage la vision de notre compatriote. Les premiers éléments de cette situation, c'est l'utilisation de notre force pour repousser ces rebelles d'où ils viennent. Et on sait d'où ils sont venus. Aujourd'hui, ce sont une guerre de procuration que nous impose le Rwanda. Et malheureusement, avec la complicité d'autres États voisins. Donc, c'est une guerre de procuration, c'est une guerre de prédation, et c'est une guerre, n'est-ce pas, qui veut fragiliser notre pays et piller notre richesse. Alors, donc, la mission principale d'un État, pour qu'un État ne soit pas mort, comme l'a dit Placide, c'est de disposer d'une capacité de défense susceptible de nous permettre d'assurer cette mission essentielle, fondamentale, régalienne. Et ça, c'est un objectif que nous devons absolument y arriver, quel qu'en soit le prix. Parce que on ne peut être État que si on dispose d'une force armée. Ça, c'est fondamental. Mais je profite, Madame Kelly, pour revenir sur cette question de la présence du M23 et de l'EAC. On parle beaucoup du mandat, du terme de référence. Mais lorsque vous lisez le communiqué de Luanda du 23 novembre 2023, les choses sont claires. 2022, excusez-moi. Premièrement, cessation des hostilités. Deuxièmement, retrait de M23. Et ils doivent rentrer à leur position initiale, c'est-à-dire là où ils sont entrés, c'est-à-dire à la frontière ougandaise. C'est pourquoi on a parlé de Mossabinho, parce que c'est là où les trois États ont une frontière commune. Et il était clair qu'ils vont, dans un premier temps, se mettre du côté de la colline de la montagne, mais du côté congolais. Mais on ne devait pas s'arrêter là-bas. Troisièmement, après les retraits obligatoires, c'est les déploiements, la poursuite intense du déploiement de forces des East African Community sur les zones qui étaient occupées par M23. Et c'est là où il y a cette duplicité, cette congestion qui a poussé le chef de l'État à dénoncer cela et à chercher d'autres solutions. Quatrièmement, il est clairement dit que le M23 doivent être désarmés. Mais en plus, en cas de refus de quitter les zones, les communiqués clairs, intervention, c'est le point, je crois, où eux, en cas de refus, les forces de l'East African Community doivent appliquer la force. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut écrire, c'est écrit en français. En cas de refus. Donc.
Mais la force n'a pas été appliquée.
Mais c'est justement. C'est là, comme l'a dit le Placide, il y a eu mauvaise foi, lorsque le général Niang a dit qu'il est prêt à mourir, à donner son sang. Qu'est-ce que nous, on pouvait croire? C'est après qu'ils ont commencé à nous dire non, nous ne sommes pas venus combattre, et c'est comme ça que nous leur demandons de partir, et leur mandat se termine, je crois, le 1er juin, et on va régler cette question.
Avec la SADC.
Question à la SADC, mais autour des FARDC d'abord.
Merci
beaucoup. Donc, je peux vous rassurer que, sur ce point-là, la question des retraits, du démantèlement du M23, c'est une question fondamentale, et ce que nous vivons, c'est tout simplement le fait que nous avons cru. Alors, sur notre entrée à l'East African Community, je parle sous le contrôle de Placide.
En 30 secondes, professeur, le temps file,
oui.
On doit donner la parole à Placide.
Une minute simplement. C'est vrai que sur le plan de droit, il y a eu beaucoup de discussions sur notre intégration. Mais tous les commerces orientaux de notre pays, c'est fait par ces corridors-là. Que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda. Et dans ces commerces, c'est nous qui sommes un peu perdants parce qu'ils exportent pour au moins 980 millions sur notre territoire. Mais nous, nous exportons pas grand-chose sauf les pillages. C'est pourquoi il était important que nous puissions réorganiser ces commerces orientaux que nous ne pouvons pas changer. Nairobi, Mombasa ou autres, ce sont les ports vers lequel nous commerçons naturellement. Vous savez même que dans cette partie de territoire, on utilise les chelins. Donc, ce sont des exigences géo-économiques pour lesquelles nous ne pouvons pas faire face à cause de la centralité de notre pays.
Placide Ntilamba, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tshopo.
Jordan Saïd Atibou, activiste pro-démocratie, je vous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tshopo. En suivant la déclaration du porte-parole de l'armée congolaise, c'est une façon de nous certifier la défaillance de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Car c'est incompréhensible que la zone se trouve sous son contrôle, soit sous la proie du mouvement M23, ainsi que leur écrit. Mais aussi, le rôle de l'armée n'est pas de communiquer à travers une vidéo sur Internet, mais plutôt de prendre des dispositions de riposte afin d'entraver que les ennemis ne prennent le contrôle sur nos entités qui sont surtout sous une mesure exceptionnelle d'état de siège défaillant.
Placide, brève réaction.
Ça fait rire, c'est tout un activiste. Je salue mon collègue et ami Jordan Atibou depuis Kisangani et dire que c'est ce que nous avons repris dans nos premières analyses pour dire.
Il vous a rejoint.
Effectivement, l'armée ne doit pas adopter une communication alarmiste. C'est plus préparer des réactions ou des dispositions pour rassurer la population que la menace ne pourra pas les atteindre. C'est ce que nous on attendait en dépit de cette communication vraiment qui nous a déçu, ça il faut le dire. Et nous pensons, comme nous l'avons dit, le chef de l'État a droit de regarder la manière dont communiquent les forces armées et recadrer certaines choses. Parce que c'est l'armée qui doit rassurer la population et non encore contribuer à étendre la peur et beaucoup de terreur. Ce qu'il faut dire au professeur, c'est qu'il a dit avec avec notre adhésion à l'East African Community. Peut-être je voudrais dire que nous avons été en contact avec les services de migration de notre pays et nous avons été informés que les services de migration venaient de mettre en place des régimes frontaliers particuliers à chaque voisin. Compte tenu de la menace sécuritaire, ils ont jugé mieux au lieu d'adhérer et plutôt laisser les frontières libres, mieux vaut avoir avec chaque voisin un régime frontalier particulier. C'est pourquoi vous avez vu, entre nous et Gisenyi, il y avait par exemple la traversée avec des jetons. Seulement, vous allez à Gisenyi et vous revenez. Et avec, ailleurs aussi, il y avait d'autres mesures comme ça. Il est vrai qu'il s'observe une problématique de gouvernance dans notre pays, dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur économique, que ce soit dans le secteur de sécurité qu'on a été décrié, que ce soit de gestion de registre de population, parce qu'aujourd'hui on n'a pas un registre de la population congolaise. Alors, ce sont ces problèmes-là internes que nous devons d'abord régler avant d'aller adhérer dans de telles organisations. Parce que nous risquons d'y aller avec notre désordre et nous y sortons très perdants. Et c'est la crainte que nous sommes en train de dire. Le prof ne va pas me contredire ici. Est-ce que nous avons un registre de la population congolaise? C'est à peine qu'on est en train de préparer le recensement. Mais nous sommes prêts à l'intégrer dans chaque machine. Qu'est-ce que nous tirons de tous ces mécanismes dans lesquels nous appartenons aujourd'hui? Donc c'est ça la question à se poser. La première des choses que nous devrions tirer de toutes ces organisations régionales, internationales dans lesquelles nous sommes membres, c'est la paix. Mais même la paix devient un problème. Alors, pourquoi nous amener encore dans d'autres? Donc, je crois que l'essentiel, c'est qu'il faut demander au président de la République et toutes les institutions, nous devons nous concentrer à asseoir une administration solide, une gouvernance solide dans tous les secteurs de la vie nationale avant d'entamer d'autres phases à l'extérieur.
Merci Placide. On espère que Matumbo va prendre aussi très rapidement cette dernière réaction qui nous vient de Butembo pour vous.
Je suis Kakule Moutse qui est de Butembo. L'alerte faite par les porte-parole des FARDC donne raison à ceux qui doutaient de la bonne foi du RDF M23 et de leur engagement au respect de la feuille de route des sommets des chefs d'État de l'EAC. Les faits sont là. Tout porte à croire que l'ennemi a profité du cessez-le-feu pour se réorganiser. Je suis curieux de constater sur terrain comment les FARDC vont s'y mettre pour déjouer ces stratagèmes des RDF M23. Sinon, elles se seraient roulées dans la farine en faisant confiance à un adversaire malin. L'heure n'étant plus au discours, j'ai hâte de voir sur terrain les FARDC faire preuve d'imperturbabilité et d'imposer le respect de l'intégrité de notre territoire avancé à l'appétit insatiable. C'est ça même la mission primordiale des autorités de l'état de siège. Courage FARDC, vous avez le soutien du peuple congolais.
On espère, Matumba, réaction, soyez concis s'il vous plaît.
Merci beaucoup Kakule, je suis d'accord avec votre commentaire. En fait, comme je l'ai dit auparavant, cette période de trêve ne devrait pas endormir les FARDC et surtout que la confiance ne peut pas être totale dans ce genre de circonstances. Donc on respecte les cessez-le-feu, mais on ouvre les yeux pour ne pas être surpris, parce que quand une partie dort, l'autre partie belligérante en profite pour avancer ses propres agendas militaires et ses propres pions. Donc, tout à fait d'accord avec vous.
Alors, en conclusion, on espère, en dépit des efforts internationaux pour désamorcer la crise, le M23 continue à avancer. Comment obliger ces rebelles à se retirer des territoires qu'ils occupent? Qu'est-ce que vous proposez en 30 secondes?
Bon, en 30 secondes, il faut d'abord évaluer tous les efforts qui ont été faits, les évaluer, c'est-à-dire constater les échecs de façon froide, voir pourquoi les échecs ont eu lieu et le moment venu changer de fusil d'épaule. Parce que aller de réunion en réunion, de communiqué en communiqué, cela a montré ses limites. Tout comme l'usage de la force militaire à travers des armées étrangères a montré que ce n'est pas toujours évident. Donc, il est temps de s'asseoir et de dire comment on rectifie le tir.
Merci, Onesphore Sematsumba. Placide Nzilamba, en parlant de réunion, la communauté d'Afrique de l'Est se donne rendez-vous demain mercredi, à moins que le programme change, pour le 21e sommet extraordinaire des chefs d'État de la région. Plusieurs points seront à l'ordre du jour. Il s'agira également d'examiner la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. La réunion se tient dans un contexte particulier marqué par les critiques formulées par les autorités congolaises sur la force régionale de l'EAC déployée dans la partie orientale du pays. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces réunions? Plusieurs, on a eu plusieurs réunions sur la crise dans le Kivu, mais qui n'ont pas donné les résultats que la population attend. Pensez-vous que il faut continuer à aller de réunion en réunion?
Bon, en fait, nous devons encourager des raccords pareils. On ne doit pas vivre quand même en vase clos. Nous sommes obligés aussi de contacter les autres, de rencontrer les autres pour partager nos points de vue et faire valoir nos arguments. Mais tout en restant pessimiste par rapport à cette réunion, parce que nous-mêmes ne faisons pas confiance à nos interlocuteurs dans ces assises, nous sommes obligés de dire à notre gouvernement de prendre tout ce temps à se préparer pour réorganiser notre armée, notre administration et faire face à cette menace. À lieu et place d'aller nous distraire dans ces réunions et y engager trop d'énergie. Les énergies doivent être engagées sur l'organisation interne de nos forces, l'organisation interne de notre gouvernance, afin de faire face à la menace. Mais en y allant très bien, ce qu'il faut demander au sein de cette réunion, c'est de dire il faut refaire le plan opérationnel de la force de l'EAC. Parce que c'est un plan qui trahit même des chefs d'État. Le plan ne parle pas de la congestion et de la cohabitation avec le M23. On parle du retrait. Et l'alignement de forces devait se faire en fonction de cette logique du retrait et non de la congestion. Aller amener les militaires de la force à Rumangabo, à Kibumba, à Kiwanja hier, c'était déjà démontrer la trahison de la force de l'EAC.
Merci Placide Nzilamba. Professeur Jacques Djoli, on n'a plus beaucoup de temps, 30 secondes pour conclure. Comment stabiliser la situation?
La stabilisation de l'Est passe par la prise en main de notre système de défense. Et ça, c'est la mission principale de l'État. Mais cet État, la plus grande du Congo, c'est un État qui est entouré par 9 voisins, une façade maritime et l'espace atmosphérique. Ce qui fait que 11 espaces à protéger, à défendre. Et nous avons signé de bonne foi l'accord de Nairobi et le protocole de Luanda. Ce sont des chefs d'État qui se sont engagés. Félix Tshisekedi, Évariste Ndayishimiye, le président angolais et l'envoyé spécial, M. Biruta, du Rwanda. On s'est engagé à déployer une force pour désarmer l'M23 et leur imposer la paix. Malheureusement, l'EAC n'a pas fait son travail et ça a échoué. Nous espérons que la République a pris toutes ses leçons et les choses vont aller pour le mieux, parce qu'on ne veut pas respecter que ces pays soient pendant 20 ans les territoires, les champs des pillages et
merci,
les souffrances de notre peuple.
Merci Jacques Joly, Dialogue entre Congolais, c'est fini. Merci à Guy Maté et Donna Madimba qui ont réalisé ce magazine. La mise en onde est assurée par Mimi Kindou. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.